Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Et je reçois maintenant deux femmes d'influence, Geneviève Lajoie et Claudie Côté, correspondantes au bureau parlementaire respectivement du Journal de Montréal et de TVA. Bonjour Claudie, Geneviève.
Bonjour Antoine.
Bonjour Antoine.
Je parle d'influence parce que l'actualité a encore essayé cette année de faire une liste des personnes les plus influentes au Québec. Et nous, évidemment, à la colline, on est curieux de voir cette liste-là à chaque année. Puis, il y a bien des gens qu'on croise souvent qui sont là-dedans. Qu'est-ce que tu en as pensé, Claudie, d'abord?
Mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes dans ce palmarès-là. Peut-être sur la méthodologie, on peut la questionner, se demander pourquoi tel type de personne se retrouve dans ce palmarès-là et pas d'autres. C'est certain que si on regarde la méthodologie qui a été utilisée, l'institution compte pour beaucoup. Alors, forcément, il va y avoir beaucoup
l'institution
de
à laquelle appartient la personne
donc,
influente. Okay.
Il va y avoir beaucoup de politiciens. En premier lieu, François Legault, ça c'était certain. Mais si on regarde un peu les statistiques rapidement, là, je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a d'abord beaucoup plus d'hommes que de femmes, ça c'est important de mentionner. Beaucoup d'hommes dans la cinquantaine. Donc la majeure partie là des personnes qui sont considérées comme
influentes. C'est ma gang ça.
Ben ils sont dans la cinquantaine, donc Fadoc et plus. Antoine, donc est-ce que c'est à cet âge-là qu'on devient influent au Québec?
Ouais.
Beaucoup qui sont issus du milieu politique, la majeure partie, 21, aussi de la culture, ça donne toujours une idée à peu près des forces en présence, là, ce type de palmarès. Puis malgré les mauvais sondages qu'on attribue à François Legault, à ses ministres, depuis les derniers mois, cette chute libre dans les intentions de vote et dans la cote de popularité, et selon l'actualité, il est encore très influent.
Geneviève? Beaucoup d'hommes prétendants au trône caquis sont assez loin, je trouve, dans ce sondage-là.
Oui, on peut parler à, on peut penser, pardon, à
parce que les hommes sont en majorité, mais ils sont pas ceux qui prétendent au trône caquis, ils sont loin.
Oui, Simon-Jolin Barrette, par exemple, on peut s'imaginer qu'il a peut-être des ambitions, 47e. Bernard Drinville, 49e. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on remarque que qui est beaucoup plus haut dans la liste que ces deux personnages-là qui pourraient avoir des ambitions, ben il y a Geneviève Guilbeault et Sonia Lebel. Hein, mais on remarque que Sonia Lebel, donc, est en avance sur juste au-dessus de Geneviève Guilbeault. Ça, c'est intéressant aussi. Puis c'est sûr que ça a dû faire jaser dans les coulisses dans les rangs caquistes. Ça, c'est certain parce que c'est deux personnes que plusieurs voient comme de potentiels successeurs de François Legault. Moi, j'en suis pas revenue quand même de la position de Pierre Fitzgibbon, qui est quand même dans le top 4 des personnes les plus influentes au Québec. Alors, ce gars-là, on l'aime, on le déteste, mais visiblement, il a quand même une énorme influence sur les gens, sur le gouvernement. Ça m'a beaucoup impressionné.
En même temps, ce qui a trait au charisme, Pierre Fitzgibbon a un bon niveau de charisme là, selon le palmarès. Ça, c'est quand même
parce que ça fait partie des points, hein? Oui, le charisme. Oui.
Absolument. Donc, on considère quand même, bien que ce soit un personnage, comme tu le disais, Geneviève, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Ça, ça a dû jouer. Sur l'influence, bien, encore là, il y a deux ministères, un super ministère, donc, oui, parmi les personnes les plus influentes au Québec, là, c'est quand même lui qui tire pas mal de ficelles.
Peu de libéraux quand même, hein, Geneviève?
Oui, très, très peu de libéraux, même je dirais aucun. mais ça donne une idée aussi du rêve. En ce moment, dans les rangs du Parti libéral, on rêve de des gens comme Guy Cormier, qui est le PDG de Desjardins, ou François-Philippe Champagne, qui est le ministre fédéral. Mais ces deux personnes-là, justement, sont très bien placées dans ce palmarès. Et on voit donc pourquoi les libéraux rêvent tant que ces deux personnages soient intéressés un jour par la chefferie du Parti libéral, ce qui n'est pas encore fait. Je signale quand même au passage que Denis Coderre n'est nulle part dans ce palmarès.
Ah, et pourquoi donc? Oui, Claudie.
Et je signalerais que Valérie Plante, toutefois, est la seule femme dans les 10 personnes les plus influentes selon le palmarès, donc elle est 7e, et que la journée où ce palmarès est paru, Denis Coderre a fait une sortie médiatique pour dire que selon lui, Valérie Plante n'allait pas se représenter, c'était des sources à lui qui le confirmaient. Ça a été démenti par le cabinet de Valérie Plante. D'ailleurs, elle l'a dit à plusieurs reprises qu'elle allait se représenter en 2025. Mais c'est peut-être pas un hasard que Denis Coderre choisisse ce moment-là. Denis Coderre écorche le bilan de Valérie Plante à chaque fois qu'il peut le faire. Puis, il est aussi toujours en réflexion sur la chefferie du Parti libéral, une espèce de réflexion dont on connaît peut-être déjà la conclusion, là, un semblant d'effeuillage où il dit que sa réflexion est faite à 95%.
Ah, puis Denis Coderre, je l'ai trouvé très revanchard, moi, dans une entrevue, notamment à Mario Dumont, à LCN aujourd'hui, c'était inouï. On se demande pourquoi il est intéressé tant à l'Assemblée nationale, puisqu'il parle énormément des villes, puis il semble encore... regretter son siège à Montréal. Peut-être, Geneviève, maintenant, on change de sujet complètement. Les femmes aussi, on continue peut-être à parler des femmes, mais en construction.
Oui, j'ai obtenu hier les chiffres du ministère de l'Éducation, des chiffres tout neufs. Donc, 8,7% des personnes qui sont inscrites et qui sont inscrites aux fameuses formations accélérées en construction, là. Donc, qui sont des femmes. Donc, évidemment, c'est très peu, là. On pourrait pratiquement dire que c'est famélique. Mais si ce taux, justement, est faible, c'est quand même deux fois plus élevé que la proportion actuelle de travailleuses sur les chantiers du Québec. Ça, c'est pas rien. Ça veut dire à quel point il y a très peu de femmes encore dans cette industrie, qui est pourtant extrêmement névralgique au Québec. Et donc, sur les chantiers actuellement, c'est 3,8% seulement de femmes. Alors, c'est quand même intéressant. C'est sûr qu'on va continuer d'entendre parler de construction parce que ce qui s'en vient risque d'être très intéressant au cours des prochains jours, la semaine prochaine probablement. Le ministre Jean Boulay qui va nous annoncer si qu'il est d'accord ou non, qu'il est favorable ou non avec les revendications, là, les doléances des syndicats de la construction. Qui reproche à son projet de modernisation de l'industrie de la construction là, de s'attaquer aux régions. Hein. On se rappelle que sa vaste réforme va permettre que des entreprises de Montréal ou de Québec, de grosses entreprises, puissent débarquer dans les régions sans embaucher de personnel, de main-d'œuvre locale. Mmh. Et donc, ça inquiète beaucoup les syndicats et on verra donc dans les prochains jours si le ministre Jean Boulay va déposer ou non des amendements à ce sujet-là.
Donc, ça va être un des faits marquants probablement de la semaine qui vient parce que la semaine qui se termine, ça a été extrêmement tranquille à Québec. On grattait un peu les fonds de tiroir là, pour trouver des bons sujets et même le Conseil des ministres qui a été virtuel. Claudie, la semaine va quand même commencer par un événement important.
Bien, un événement important qui se produit très rarement et qui a eu beaucoup d'écho ici à l'Assemblée nationale, c'est l'éclipse solaire qui va finalement avoir lieu lundi. J'ai envie de dire finalement parce qu'on en parle déjà depuis tellement de semaines. Geneviève sera d'accord, elle qui couvre l'éducation, parce que c'est un phénomène astrologique, astronomique qui va se produire, mais on en a tellement parlé dans un contexte scolaire, mais surtout dans un contexte de sécurité. Donc, quoi faire avec les enfants? Est-ce qu'il faut envoyer des directives ministérielles? Est-ce que les directives sont les bonnes? Est-ce qu'elles sont bien comprises? Est-ce qu'on ferme les écoles? Est-ce qu'on les laisse ouvertes? Alors que cette éclipse solaire-là, on le sait qu'elle va arriver depuis longtemps, là. C'est pas déterminé au début du mois de janvier.
Non, vraiment pas.
Et ça fait longtemps qu'on sait qu'elle va avoir lieu. Il y a eu des directives qui ont été faites et les scientifiques ont un peu dénoncé que les directives soient alarmistes, qu'on parlait beaucoup de sécurité, de danger relié au fait de regarder l'éclipse et que ce soit pas une occasion justement de parler d'un phénomène scientifique rare et de faire de l'éducation par rapport à ça. Bon, alors lundi, à suivre, comment ça va se dérouler, quelles seront les écoles qui vont offrir des activités, quelles écoles vont ne pas les permettre, donc aller vers des journées pédagogiques, mais nos élus seront sur le terrain pour regarder l'éclipse. On sait
Oui,
déjà
parce
que
que...
Bernard Drainville va aller dans une école où il y a une
Ah, OK.
activité qui est organisée. Monsieur Legault devrait participer aussi à une activité. Donc, on devrait être dans le couloir de l'obscurité totale. C'est le cas pour Montréal, entre autres, Sherbrooke, du côté de la
Beaucoup
Beauce
les cantons de
aussi,
l'Est, hein?
beaucoup les cantons de l'Est. Et ça m'amène à vous parler peut-être de sécurité sur le terrain, donc avec la Sûreté du Québec et les corps policiers. On en a un peu moins parlé, mais si on regarde du côté de l'Ontario, à Niagara Falls, ils attendent 1 million de personnes. L'état d'urgence a été décrété là-bas. Les services de sécurité en ont plein les bras pour essayer de contenir tout ce monde-là. Ici, ça s'est fait un peu en sous-marin, donc de façon très discrète. Mais le ministère du Transport, la Sécurité publique, la Sûreté du Québec, les différents corps policiers sont à pied d'œuvre en ce moment justement pour essayer de s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement, trop de trafic, par exemple, pour se rendre dans les cantons de l'Est pour observer cette éclipse, s'assurer aussi que les voitures s'arrêtent pas en bordure de route, sur des autoroutes pour regarder, le phénomène. Donc ça aussi, ça se fait peut-être avec un peu moins de bruit qu'ailleurs au Canada. Mais ça se fait quand même. Puis, je terminerai en disant que c'est déjà arrivé des éclipses dans le monde, là. Il y en a eu une en 2017, une éclipse solaire totale aux États-Unis. Ça s'est très bien passé. Donc, on va souhaiter que ce soit le cas lundi prochain.
Il va y avoir aussi la visite de Gabriel Attal, le premier ministre français. Ça, Geneviève, c'est un... ça fait toujours jaser quand un premier ministre français débarque au Québec.
Oui, surtout que ce premier ministre, qui est tout nouvellement premier ministre, hein, qui a fait sa marque comme ministre de l'Éducation en France et qui est très jeune, hein, 35 ans, et qui donc, comme je disais, il a fait sa marque comme ministre de l'Éducation. Ce qui est drôle, c'est que justement, un ministre de l'Éducation réussisse à devenir premier ministre, hein, parce que on est habitué ici, en tout cas au Québec, le ministère de l'Éducation, c'est un ministère casse-gueule, faut le dire.
En France, on appelle ça le mammouth,
Oui,
le
ben
ministère de l'Éducation, oui.
ici c'est la santé, le mammouth, mais là-bas effectivement, mais ici c'est vraiment un ministère casse-gueule, hein. On se rappelle Jean-François Roberge, le dernier mandat du gouvernement caquiste, là. Je pense qu'il avait hâte de changer de poste. Certains pensaient qu'il était même brûlé après avoir passé 4 ans comme ministre de l'Éducation. C'est pas facile non plus pour Bernard Drainville. On le voit juste avec l'éclipse, là. Ça a tellement été compliqué. Donc, on va voir ce que M. Attal va venir dire ici. Mais en tout cas, pour l'image, c'est ça. C'est un jeune premier ministre de 35 ans. Intéressant aussi parce que nous, on se dirige vers la prochaine élection. Ou qui aura pour affronter M. Legault? Ben, il y aura Gabriel Nadeau-Dubois, PSPP, qui sont des gens beaucoup plus jeunes que lui.
Un choc de
Alors,
génération, oui.
exactement. Alors, intéressant aussi sur le plan politique pour nous, là.
Et il va
Claudie,
faire un
qu'est-ce...
discours au Salon Bleu. Et ça aussi, c'est assez rare. La dernière fois que c'est arrivé, c'est sous René Lévesque, donc dans les années
Ah non,
80.
Sarkozy! Sarkozy, j'étais là.
Sarkozy, c'est
Sarkozy.
vrai, au
Ah, mais
Salon
c'était le
Bleu.
pre... T'as raison, c'était
Mais
le
c'était pas
président et
le
non le
premier
premier
ministre.
ministre. Oui, t'as raison,
Voilà. Alors,
oui.
c'est bon, Sarkozy comme président, mais sinon, le premier ministre, c'est dans les années 80. Et il y a François Hollande qui était venu, mais il l'avait fait devant l'Assemblée nationale, donc pas au Salon Bleu. Donc, ça aussi, c'est un fait qui est assez rare. C'est dans le cadre d'une rencontre quand même qui se
Les
fait
rencontres alternées,
des
là,
premiers
oui.
ministres, voilà. Ça se fait annuellement, mais pas toujours en personne. Bon, il y a eu la pandémie, là. Il y a eu la pandémie, des élections, des remaniements ministériels, fait que c'est pas toujours possible. Donc, faut remonter avant la pandémie pour la dernière fois qu'on a eu une rencontre en personne. Donc, le discours au Salon Bleu pourrait être intéressant aussi. Geneviève parlait d'éducation. C'est un thème qui est cher quand même à François Legault aussi, il le répète souvent. Peut-être qu'il pourrait
Puis
trouver
la relation Québec-France?
la relation Québec-France toujours qui est importante. On dit qu'on va parler de culture, de langue française, d'éducation. Et aussi d'économie, évidemment.
Et non-indifférence, c'est quoi donc? Non, c'est quoi la
Non-ingérence.
non-ingérence, non-indifférence? Est-ce que ça va revenir, Geneviève, selon toi?
Bien sûr que les journalistes vont poser la question. C'est comme ça
Ah,
que le
OK.
sujet va revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que M. Legault, lui, dans les rencontres alternées avec la France, a pas été beaucoup là ces dernières années, contrairement aux autres premiers ministres, que je pense à Jean Charest. Moi, je me souviens de l'avoir suivi en France, à Paris, pour ça. Pareil avec Madame Marois. Monsieur Legault, faut le savoir, aime pas beaucoup voyager. Pour un ancien d'Air Transat, c'est toujours un peu drôle, mais il n'aime pas prendre l'avion. Donc, on l'a pas beaucoup vu là dans ce genre de relation avec la France là depuis le début de son arrivée au pouvoir. Là.
Monsieur Attal va aussi rencontrer Justin Trudeau.
Donc, ah oui, il va aller à Ottawa?
À Ottawa, ouais.
Il commence par Ottawa?
Il commence par Ottawa.
Il fait pas comme le général de Gaulle qui était d'abord venu à Québec et finalement qui n'est jamais allé à Ottawa. Parlons de Gabriel Nadeau-Dubois en terminant. Geneviève, il va négocier avec le gouvernement pour faire avancer une loi qui est chère à son cœur.
Exactement.
Et au cœur de QS.
Jadis, la loi Françoise David qui avait été adoptée en 2016. Alors là, Québec solidaire, mais il faut le dire aussi, les libéraux et le Parti québécois souhaitent qu'on étende cette loi, qu'on élargisse cette loi-là pour permettre à plus de locataires aînés d'être protégés des évictions.
Ouais.
Pour le moment, M. Legault, le gouvernement de la CAQ a accepté d'appeler ce projet de loi de Québec solidaire, mais ils ont démontré qu'ils n'étaient pas vraiment intéressés à l'adopter. Mais là, Gabriel Nadeau-Dubois sort une lettre cette semaine au premier ministre et lui dit, écoute, moi là, je suis prête à faire des compromis, je suis prête à, au niveau de l'âge, au niveau du temps, parce qu'il faut que ce soit des locataires. Actuellement, ce sont des locataires de 70 ans, dont ça fait 10 ans qu'ils habitent dans leur logement, qui sont protégés. Alors, le Québec solidaire est prêt à faire vraiment des compromis, à mettre de l'eau dans son vin pour faire avancer cette cause-là. On verra si François Legault va être convaincu par Gabriel Nadeau-Dubois.
Claudie, penses-tu que François Legault va nous parler cette semaine directement à nous, la presse parlementaire?
Mais il y a un point de presse, en tout cas, conjoint avec le premier ministre français qui pourrait avoir lieu avant son départ. Donc ça, ce serait une occasion de lui parler. Pour le reste, qui vivra, verra.
Geneviève, est-ce que tu gagerais que oui, on va avoir des réponses de M. Legault cette semaine?
Ben, en tout cas, si c'est cette semaine, si on parle avec le premier ministre aussi français, ce sera l'occasion, comme tu disais tout à l'heure, de lui suggérer le nini comme sujet.
Oui.
Et peut-être que dans ce cas-là, ce sera le premier ministre français qui prendra le lead, comme on dit, sur M. Legault cette semaine.
C'est ce qu'on dit à Paris, effectivement. Merci infiniment, Geneviève Lajoie et Claudie Côté. Je vous remercie, puis à la prochaine.
Merci.